Place Info.
Et merci de nous rejoindre sur France Info, canal 27 de la TNT, la radio, bien évidemment pour ce 8h30 France Info. À mes côtés, Jean-Jérôme Bertoulus, bonjour.
Bonjour David.
Et notre invité aujourd'hui, Cédric O, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être présent, secrétaire d'État au numérique. On va débuter, si vous le voulez bien, avec une polémique. On en a beaucoup entendu parler la semaine dernière. Il se trouve qu'avant de quitter la Réunion, le chef de l'État a tenu à revenir sur la polémique du voile. On l'écoute.
Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. C'est ça la laïcité. Le port du voile dans les services publics, à l'école, quand on éduque nos enfants, c'est mon affaire. C'est ça la laïcité.
Est-ce que selon vous, Cédric O, avec cette explication, le chef de l'État a tenu à mettre les points sur les i et à répondre à ceux qui veulent proscrire le voile de l'espace public comme Marine Le Pen ou comme Jean-Michel Blanquer?
Moi, je pense qu'il tient la ligne, qui est la ligne historique de la laïcité, qui est d'ailleurs la ligne qui avait été celle des promoteurs de la loi de 1905. Quand on lit les débats sur la laïcité à l'époque, et le rapporteur dit à un moment, il faut que les curés puissent porter des soutanes dans l'espace public. Et donc, il y a bien cette différence entre la société qui n'est pas laïque et l'État qui l'est. Et je pense que c'est exactement ça que dit le président, c'est-à-dire que au sein des services publics, il ne peut pas y avoir de prosélytisme, il ne peut pas y avoir affichage de telle ou telle religion, mais la société n'étant pas laïque, les gens étant libres de croire ou de ne pas croire, ils peuvent porter, dès lors que ça respecte l'ordre public, dès lors que eux respectent la loi et ne font pas de prosélytisme, ils peuvent s'habiller comme ils le souhaitent.
Mais est-ce que, en fait, ce qui est en cause, c'est pas précisément, on va dire, les espaces un petit peu lisières, comme l'accompagnement scolaire par des mères voilées, comme les auxiliaires du service public?
Je pense qu'il peut y avoir des débats sur ces espaces lisières. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire publiquement. Il se trouve que moi, quand j'étais enfant, j'habitais à Villeurbanne. J'ai fait des sorties scolaires quand j'étais à l'école primaire avec des mères voilées. Il n'y a jamais eu aucun problème, il n'y a jamais eu aucun prosélytisme et tout se passait très bien. Donc je pense qu'on met l'accent sur un problème qui, dans 99% des cas, n'en est pas un.
Cédric O, le président est revenu à deux reprises, au moins, effectivement, sur la laïcité, sur également son souhait qu'il n'y ait pas d'amalgame entre différentes questions, laïcité, immigration, islamisme. Mais c'était au détour de questions. Est-ce que maintenant, oui, vous attendez que le président s'exprime sur la laïcité avant la fin de l'année pour vraiment, en quelque sorte, poser les lignes de force?
Alors, faut revenir quand même sur ses propos. Il commence par dénoncer le communautarisme. C'est-à-dire qu'il fait, effectivement, vous le dites, pas d'amalgame. Il dénonce le communautarisme. Il dit que c'est incompatible avec la République. Il refuse les amalgames ensuite entre une partie extrême de l'exercice de la religion et les personnes qui croient au jour le jour. Maintenant, est-ce qu'il doit s'exprimer d'ici la fin de l'année? Honnêtement, c'est pas moi qui vais lui enjoindre de faire telle ou telle chose. C'est à lui de décider du temps. Il y avait quelque chose qui était dans les tuyaux il y a quelque temps. Moi, je pense qu'en général, il n'est jamais bon de s'exprimer au plus haut de la polémique parce que le débat est assez peu apaisé. Donc si la polémique peut descendre un petit peu, qu'on peut revenir dans le cadre d'un débat rationnel, non pas irrationnel, instrumentalisé par tel ou tel, je pense que ça sera mieux. Alors est-ce que ça doit être dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 1 an, à lui de le décider.
Alors on va en venir, si vous le voulez bien, Cédric O, au municipal à présent. Intéressons-nous à Paris, puisque nous y sommes. Alors évidemment, la France n'est pas Paris, mais tout de même, on connaît le cas Cédric Villani, hein, qui demeure pour le moment en troisième position des sondages, derrière Anne Hidalgo. Écoutez le pronostic de Gilles Legendre, invité vendredi de France Info.
C'est une source de confusion qu'il va falloir que nous clarifions.
Comment ?
Moi, mon objectif, c'est que à un moment donné, et le plus tôt sera le mieux, nous puissions nous rassembler.
Mais c'est possible, c'est encore ?
Mais bien sûr que c'est possible.
Nous vous
sommes
y croyez ?
Nous sommes à 6 mois de l'élection.
Bon, pour se rassembler, il faudra que Cédric Villani jette l'éponge, a priori. Vous avez le sentiment qu'il va le faire ? Il est prêt à le faire ?
Écoutez, je pense qu'il appartient à une famille politique. Il s'en réclame d'ailleurs. Il appartient à un mouvement qui est né en 2016-2017, autour d'un collectif, autour d'un homme, certes, Emmanuel Macron, mais autour d'un collectif. Je pense que cela fait partie du respect qu'on doit au collectif, que si jamais on n'est pas en position 2, dès lors qu'on partage tous un objectif qui est qu'on puisse succéder à Anne Hidalgo et de s'opposer en partie à la politique qui a été menée par Anne Hidalgo et de considérer qu'il faut une nouvelle majorité, dans ce cas-là, il faudra se rassembler, au bout du bout.
Mais c'est-à-dire que s'il passe deuxième dans les sondages, dans ce cas-là, il faudra peut-être revoir un peu les plans?
Je pense qu'actuellement, ce n'est pas le cas.
On peut faire des prospectives.
Et donc, je pense qu'il faut continuer. Je comprends que Cédric Villani n'a pas la volonté de se rassembler tout de suite. On verra d'ici quelques mois.
Mais au bout du bout, pour reprendre votre expression, est-ce qu'au bout du bout, vous allez, vous risquez pas de ne pas conquérir Paris? Est-ce que vous envisagez une défaite dans cette ville emblématique?
On l'envisage toujours, la défaite, Jean-Jean Bertolus. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de nous, ça dépend des électeurs. Si vous me demandez, si la question que vous me posez, c'est est-ce que je regrette la situation actuelle?
Et est-ce que la question que je vous pose, est-ce qu'effectivement aujourd'hui la zizanie est installée?
La politique du président, oui, je la regrette.
La zizanie est installée, elle va perdurer, comme vous dites peut-être au bout du bout. Est-ce qu'encore une fois, cette zizanie va peut-être vous faire perdre Paris?
À ce stade, je ne veux pas le croire. Je pense que la raison prévaudra. Ça vaut pour Cédric Villani, ça vaut pour d'autres villes.
Lyon aussi,
mais
Lyon
il faut aussi, par faire exemple. En sorte qu'à la fin, on soit rassemblés. Je trouve parfois un peu baroque que certains qui ont été choisis dans le cadre de la Commission nationale d'investiture pour les députés, dont je faisais partie, qui à ce moment-là ont trouvé que le choix du collectif faisait tout son sens, même s'il n'était pas totalement démocratique, aujourd'hui récusent le choix du collectif.
Et comment vous expliquez autant de candidatures dissidentes? On parle de Paris, on peut parler de Lyon et d'autres villes en France. C'est quoi? C'est l'immaturité des marcheurs?
Alors d'abord, je sais pas combien on a dû... investir de personnes ou de faire de choix de villes, je pense que ça doit être entre 200 et 300 aujourd'hui. Donc il y a quelques points sur des grandes villes, vous l'avez dit, où il y a des débats. Je le regrette, d'abord. C'est effectivement, je préférais qu'il n'y en ait pas. Après, je pense que c'est très lié, effectivement, à la jeunesse du mouvement présidentiel. Et quelque part, c'est le collatéral du renouvellement qui a eu lieu. C'est-à-dire que ce sont des pratiques politiques qui ne sont pas ancrées dans une grande histoire, des gens qui ont peu d'expérience politique. Et donc... quelque part, moi je prends tout, c'est-à-dire le renouvellement du personnel politique. On le dit souvent, sur les 300 députés En Marche, il n'y en a que 13 qui étaient députés lors de la législature d'avant. Ça crée un peu de transition qui est un peu compliquée, l'élection municipale en est une, mais quelque part, je préfère qu'il y ait ce renouvellement, ce coup d'accordéon qui permet de renouveler les élites politiques, de renouveler les pratiques et les gens qui viennent souvent de la société civile, qui du coup ont moins cette pratique politique très hiérarchique et très ancrée dans le passé d'un parti. Voilà, j'aimerais que les choses rentrent dans leur lit et j'ai bon espoir que ce soit le cas dans les mois qui viennent.
Alors Cédric, on va parler d'un homme justement qui vient de la société civile, même s'il a fait une petite incartade tout de même par la politique, vous me voyez venir, j'en suis sûr. On va parler de Thierry Breton dans quelques instants, ce sera juste après un détour par l'info, il est 8h40 sur France Info et on retrouve Steven Goyer.
La Maison-Blanche promet une annonce majeure. Le président américain Donald Trump doit s'exprimer à la mi-journée à 14h heure française. D'après la chaîne CNN qui cite un haut responsable militaire, l'armée américaine a visé le chef de l'État islamique Abu Bakr al-Baghdadi lors d'un raid effectué samedi dans le nord-est de la Syrie. Pas de commentaire à l'heure actuelle du côté du Pentagone. Les analyses ADN le confirment. Le corps retrouvé mercredi dans une forêt en Alsace est bien celui de Sophie Le Tan. Cette jeune étudiante disparue en septembre 2018. La procureure de Strasbourg l'a annoncé hier soir. Le principal suspect dans cette affaire, Jean-Marc Reiser, est en détention provisoire. Le collectif Mobilisation pour retrouver Sophie Le Tan annonce sur Facebook qu'une veillée de recueillement aura lieu le week-end prochain. Une grande partie des TER bloqués à quai ce matin dans la région PACA. Aucun ne roulera entre Marseille et Aix-en-Provence et entre Avignon et Carpentras notamment. Résultat d'un mouvement de grève locale à la SNCF car des cars de substitution doivent assurer les liaisons impactées. En Catalogne, la réponse des unionistes aux indépendantistes. Manifestation organisée aujourd'hui à Barcelone par plusieurs organisations favorables au maintien de la région dans le giron de Madrid sous le mot d'ordre pour la concorde, pour la démocratie. Hier, la mobilisation des indépendantistes a rassemblé environ 350 000 personnes. Trois personnes ont été arrêtées et une quinzaine d'autres ont été blessées. Quel adversaire pour l'Angleterre? Le nom du deuxième finaliste du mondial de rugby au Japon dévoilé ce matin. Le ticket se jouera entre les Gallois et les Springboks sud-africains. Début de la rencontre à 10h à Yokohama. La finale, elle, se jouera samedi prochain.
France Info. Et tout est plus clair.
Et la suite du 8h30 France Info avec notre invité aujourd'hui, Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, et Jean-Jérôme Bertolus.
Thierry Breton est-il le bon candidat au poste de commissaire avec un très très vaste portefeuille? Écoutez le commentaire de l'écologiste Yannick Jadot, c'était il y a quelques jours sur RMC.
Thierry Breton est jusqu'à encore probablement aujourd'hui président d'Atos. C'est une grande société.
Il est nommé président non exécutif.
Oui, aujourd'hui. C'est une société du numérique qui touche des subventions européennes, qui est un des leaders d'ailleurs européens sur les supercalculateurs, encore une fois avec des subventions européennes. Et dans son portefeuille, qu'est-ce qu'on a ? Le numérique. Donc on va avoir un souci de conflit d'intérêts. Et puis Thierry Breton, c'est aussi une conception de l'économie.
Après Sylvie Goulard, est-ce que le président de la République ne prend pas un nouveau risque avec Thierry Breton ?
Ouais, je trouve que les propos de Yannick Jadot sont ridicules et contre-productifs. Ridicules parce que il faut, pour bien connaître le sujet des conflits d'intérêts, le problème, c'est si Thierry Breton passait de la Commission européenne à la présidence d'Atos. Le fait qu'il passe de la présidence d'Atos à la Commission européenne, c'est très différent. Parce
le fait qu'Atos reçoive des subventions de la Commission européenne, y compris Orange, qu'il a présidé
par le passé. Il y a une semaine, il ne savait probablement pas qu'il serait président, qu'il serait nommé comme commissaire européen. Mais donc, là, il faut qu'il se déporte des sujets d'Atos à l'avenir. Et je préfère. La question qui se pose profondément, c'est est-ce qu'on veut des gens qui exercent des responsabilités politiques, qui soient des spécialistes de la politique, qui n'aient fait que de la politique. Typiquement, préfère-t-on que Yannick Jadot, qui n'a fait que de la politique dans sa vie, soit homme politique et exerce des responsabilités, ou à l'heure où on doit se battre contre les géants du numérique, à l'heure où le numérique vient transformer l'ensemble de la société, alors que la question des supercalculateurs est au cœur de la compétition qu'on a avec les Américains et les Chinois, on préfère avoir un spécialiste des supercalculateurs qui gère ces sujets pour l'Europe. Moi, je préfère la deuxième option. Ensuite, il faut que les choses soit très clair, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'occuper de sujets qui touchent Atos, mais je préfère qu'il vienne avec son expérience plutôt qu'on prenne des gens qui n'ont fait que de la politique et dont le seul but dans la vie est d'être réélu.
Thierry Breton, qui est cité dans une plainte déposée par Anticor pour prise illégale d'intérêt, il sera auditionné le 12 novembre. Vous redoutez cette plainte ?
Je ne redoute pas cette plainte parce que elle fait. C'est une plainte qui, je crois, date de 12 ou 13 ans. C'était quand il était en 97, enfin encore plus que ça, ministre des Finances, de mémoire. Je ne sais pas exactement quel est le sujet.
Ouais, 2005.
Je pense qu'il n'y a pas vraiment de crainte à avoir. Et par ailleurs, je trouve que l'action de la société l'association Anticor est assez étonnante parce que dès lors que vous avez été aux responsabilités. Moi, d'autres ministres, il est toujours possible de porter plainte. Mais c'est trop facile. C'est-à-dire que vous portez plainte contre n'importe qui. Le temps que le procès se tienne et que le jugement, appel, cassation, etc. ait lieu, ça peut prendre parfois 5-10 ans. Ça veut dire qu'il suffirait que je porte plainte contre n'importe qui, contre vous, parce que je n'ai pas aimé. Et puis ensuite, ça vous empêche d'accéder à toute responsabilité. Donc je pense qu'il faut aussi.
Qu'est-ce que vous voulez dire par la plainte d'Anticor ? Dans laquelle, effectivement, Thierry Breton n'est non pas visé, mais cité, puisque exactement. C'est une plainte contre X, a été déposée en septembre dernier. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire que cette association Anticor, anticorruption, elle a des visées politiques ?
Je pense qu'elle... En tout cas, qu'elle a une conception de la politique qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire qu'elle considère qu'il ne peut y avoir aucun aller-retour entre le politique et la société civile. Parce que, en tout cas, c'est ce que je conclus de ces pratiques. Dès lors que, dès qu'il y a ces allers-retours, elles portent plainte. C'est le cas pour Thierry Breton, c'est le cas pour Alexis Kohler. Bon. Je pense qu'il faut savoir, il faut se poser la question de la société et du monde politique qu'on veut. Si on veut des gens qui jamais ne font d'allers-retours entre la société civile et le monde politique, alors dans ce cas-là, il faut continuer dans cette direction. Ça vaut pour les entreprises, ça vaut pour les ONG. Manon Aubry était patronne d'Oxfam. On peut se poser la question, si on suit la logique jusqu'au bout. Et je préfère vraiment, encore une fois, des gens qui ont eu une expérience professionnelle, qui ont vécu dans la vraie vie, si on peut le dire comme ça, plutôt que des gens qui ne feront et qui ne font que de la politique.
Cédric ou David Debat le disait à l'instant, effectivement, Thierry Breton sera auditionné par le Parlement européen le 12 novembre prochain. Par la commission des affaires juridiques, donc qui va passer à la paille de fer, effectivement, les risques de conflit d'intérêts. Mais est-ce qu'il manque pas en Europe l'équivalent de ce qu'on a en France, et peut-être d'une façon plus musclée, une haute autorité pour la vie publique qui permettrait, en quelque sorte, en amont, d'instruire le CV des prétendants à la commission ?
Alors, je ne suis pas un spécialiste du processus, mais je crois qu'il y a une espèce de succès d'année de la HATVP, puisqu'il y a une commission juridique qui étudie les choses.
Oui, mais enfin,
je pense que si Sylvie Goulard, effectivement. Alors, premièrement, pour répondre concrètement à votre question, je pense que ce serait une très bonne chose. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu une proposition du groupe Renew et de Stéphane Séjourné sur le sujet, qui est une HATVP, une haute autorité qui établisse la probité des uns et des autres au niveau européen. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense en l'espèce que Sylvie Goulard a été retoquée. Ce n'était pas totalement pour les raisons que vous évoquez, et plus pour des raisons politiques. Mais sur votre question, oui, ce serait une très bonne chose qu'il y ait une HATVP
européenne.
Justement,
est-ce que vous avez le sentiment que le sort de Thierry Breton est quasiment scellé aujourd'hui ?
Vous voulez dire du mauvais côté
Du mauvais côté pour vous ou...
Non, je pense qu'il y a eu des discussions, et je pense que maintenant, ce que les députés européens, mais ils sont souverains, doivent estimer, c'est est-ce que c'est la meilleure personne à ce poste ? C'est ma conviction. Il a été dirigeant de grande entreprise, il connaît les sujets de défense, il connaît les sujets économiques, il connaît les sujets européens, il est au cœur du sujet du numérique, qui est un des très très grands combats que nous avons sur la table avec Margrethe Vestager. Je trouve que c'est la personne idoine. Mais c'est ça qui doit faire l'objet de l'étude, dès lors qu'il n'y a pas d'éléments concrets du côté, enfin en tout cas de procédures en cours du côté judiciaire.
En attaquant le candidat, comme on l'avait avec Sylvie Goulard, l'opposition s'en prend également à Emmanuel Macron.
Mais je pense qu'il y a une troisième mi-temps des élections européennes et de la nomination de la Commission. Ça, je pense que ça n'a échappé à personne. C'est dommage parce qu'on prend en otage les politiques publiques pour faire de la politique. Maintenant, je pense qu'il faut que les choses reviennent dans leur lit encore une fois et puis qu'on puisse s'occuper du programme de travail de la Commission parce que Dieu sait s'il y a beaucoup de travail sur la planche.
D'ailleurs, toujours au niveau européen, il y a une directive sur ce qu'on appelle les droits voisins. La France est la première à appliquer cette directive et Google s'est empressé de la contourner. Le chef de l'État a demandé aux autorités de la concurrence en France et en Europe d'activer très rapidement une procédure à l'encontre de Google. On va dire, ça fait peur à Google, ce genre de choses ?
Je pense que ça ferait bien de leur faire peur. Il y a plusieurs questions qui sont sur la table. D'abord, pourquoi Google se permet de faire ce qu'il fait avec la presse, que vous avez bien en tête, qui est grosso modo de leur imposer de ne rien payer pour utiliser leurs informations. Mais parce qu'il est en position de monopole ou de quasi-monopole. Si Google n'était pas en position de monopole ou de quasi-monopole, il ne serait pas capable d'imposer ces conditions léonines. Dès lors, il semble que cela s'apparente à un abus de position dominante. C'est ce qu'a dit le président. Abus de position dominante, si c'est avéré, ça peut aller à des amendes de plusieurs milliards d'euros. Donc je pense que Google ferait bien de s'en préoccuper. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il me semble pas très tactiquement habile, à l'heure où des questions se posent sur la taille de ces acteurs, à l'heure où 50 juges américains, procureurs américains, ont intenté une action contre Google pour abus de position dominante, d'agiter un chiffon rouge comme ça sous le nez du législateur et quelque part de se ficher des États européens, je pense que ce n'est pas très habile.
Si Cédric, on verra dans un instant si on peut sanctionner surtout rapidement ce genre de plateforme. On parlera également de reconnaissance faciale avec vous. Ce sera juste après un rapide détour par l'info. Il est 8h50 sur France Info. Steven Goyer.
Le corps démembré retrouvé en forêt en Alsace est bien celui de Sophie Le Tan. Les analyses ADN le confirment, annonce de la procureure de Strasbourg hier soir. Un corps de femme très abîmé avait été retrouvé dans une forêt du Bas-Rhin mercredi à une cinquantaine de kilomètres de Schiltigheim. Sophie Le Tan avait disparu le 7 septembre 2018, le jour de son 20e anniversaire. Jean-Marc Reiser, le principal suspect dans cette affaire, a été mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Le président américain Donald Trump fera une annonce très importante. Ce matin, annonce de la Maison-Blanche. Selon CNN et Newsweek, Donald Trump a approuvé ces derniers jours le lancement d'une opération contre le groupe État islamique dans le nord-est de la Syrie, visant spécifiquement le chef de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi. Le Pentagone se refuse pour l'instant à tout commentaire. Ici, il n'y a pas de négociation politique. Réponse du président bolivien Evo Morales aux manifestants qui réclament depuis dimanche un second tour d'élection présidentielle. Donné vainqueur à la sortie des urnes, le chef de l'État a appelé à respecter la Constitution. Son opposant, Carlos Mesa, promet de son côté une intensification des manifestations à partir de demain. Et si l'Église ordonne des hommes mariés en Amazonie. C'est en tout cas ce que demande le synode des évêques réunis depuis 3 semaines au Vatican. Une ordination qui serait toutefois sous condition, notamment avoir une vie mariée stable et être reconnue par la communauté. Eux vont faire cap sur le Brésil. 59 bateaux manœuvrés par 2 skippers s'élanceront à 13h15 du Havre pour la 14e édition de la Transat Jacques Vabre. 7000 km à parcourir environ jusqu'à Salvador de Bahia. La course doit durer une quinzaine de jours.
France Info. Et tout est plus clair.
Cédric O, secrétaire d'État au numérique, invité du 8h30 France Info en ce dimanche matin. On évoquait les Google, les GAFA, enfin, etc. il y a quelques instants. On va y revenir si vous voulez bien. Lors du dernier conseil franco-allemand, le chef de l'État avait évoqué de nouvelles règles pour tenter de réguler ces plateformes avec des sanctions rapides. C'est possible? Comment est-ce possible?
Alors, ce que la France propose, mais c'est d'abord un sujet européen, parce que pour être au niveau de la sanction, au niveau de l'enjeu, il faut que ce soit au niveau européen. Ce que la France propose, c'est qu'il y ait une régulation spécifique qui s'applique à ces acteurs qui sont systémiques. Autrement dit, il n'y a pas de raison d'imposer la même chose à soit un acteur qui fait 1,4 milliard d'utilisateurs comme Facebook ou comme Google qui a votre adresse mail, enfin qui a vos emails, qui stocke vos données sur le cloud, qui est dans votre téléphone avec Android, qui est votre seul moteur de recherche et qui est votre seule cartographie, les mêmes règles qu'à des entreprises normales. Ces règles, elles peuvent être préventives en termes pour éviter des acquisitions et qu'ils tuent la compétition. Ces règles, elles peuvent aller vers des obligations d'interopérabilité, elles peuvent aller vers un certain nombre de données d'intérêt général. Ces règles, elles peuvent aller, par exemple, sur les contenus haineux, sur un certain nombre d'obligations, parce que dès lors que vous avez 40 millions de Français au même endroit sur Facebook, il faut un certain nombre d'obligations. Elles sont à définir avec les partenaires européens. Mais ce qu'on sent, et c'est pas que européen et français, c'est dans le monde entier, c'est que la question de ces plateformes pose un enjeu comme il n'en a jamais posé à la puissance
publique. Justement, vous évoquiez juste avant les titres la menace américaine. On voit bien que nous, on n'est pas du tout de taille pour l'instant à affronter ces géants qui créent leur propre monnaie, qui s'assoient sur les règles européennes. On parlait de Google sur les droits voisins. Est-ce que ça doit être une priorité de la prochaine Commission européenne, que ce soit Thierry Breton, s'il est commissaire européen, ou que ce soit la commissaire chargée de la concurrence?
Pour moi, c'est une priorité quasiment vitale pour la puissance publique. Parce que ces entreprises, par leur taille, par leur complexité technologique et par leur complexité juridique, posent des questions comme elles n'en ont jamais posé à la puissance publique. Et quelque part, si l'État n'est pas capable, ou la puissance publique en règle générale, n'est pas capable d'imposer sa loi, alors c'est un problème de survie de l'État. Et donc, il me semble que poser des cadres de régulation à la hauteur de l'enjeu, ça prendra du temps. Parce que c'est complexe et on ne découpe pas, soit on ne régule pas des choses aussi importantes du jour au lendemain. Mais c'est une question essentielle, mais je dis bien essentielle, pour les années à venir. Et je pense que c'est quelque chose dont, à la fois, le président de la République est conscient, mais également, vous avez cité Margrethe Vestager. Thierry Breton connaît extrêmement bien le sujet à travers son passé, mais je pense que c'est un des sujets qui est le plus haut dans l'agenda de la Commission.
Alors, Cédric O, à partir de lundi, et ça pendant jusqu'à mercredi prochain, les grands industriels de l'intelligence artificielle vont se réunir.
Les chercheurs vont
se réunir à Paris. Le président de la République conclura cette rencontre. Est-ce que le comme avec les GAFA, d'ailleurs, est-ce que le premier message du président, ça ne doit pas être de rassurer les Français, c'est-à-dire que le numérique, l'intelligence artificielle ne va pas supprimer, contrairement à ce qu'on peut lire dans les études, des centaines de milliers d'emplois?
Exactement. C'est-à-dire que la première chose, c'est de dire que la France a la capacité de tirer profit de ces révolutions industrielles et que, certes, il y a des questions qui se posent, mais d'abord, ça apporte énormément de choses. D'abord, les études montrent en général que ça crée plus d'emplois que ça n'en détruit. Et ensuite, il se trouve que j'étais jeudi dernier à Rennes. L'intelligence artificielle permet de beaucoup mieux détecter les tumeurs dans les radiographies du thorax. Et donc, l'intelligence artificielle, par exemple dans la santé, va significativement améliorer la détection des cancers, va améliorer les protocoles de soins, va permettre de personnaliser la médecine. Donc il y a beaucoup de choses à en tirer. Il y a des questions légitimes qui se posent sur les disruptions du travail, sur des biais qui peuvent avoir lieu, mais la meilleure manière de prendre la vague, c'est de la dompter.
C'est pour le côté positif. David.
Double question, Cédric O, et réponse un peu rapide, s'il vous plaît. Quand on parle d'intelligence artificielle, on pense notamment à la reconnaissance faciale. D'une part, est-ce qu'il faut réguler aujourd'hui les expérimentations sur ce domaine? Et d'autre part, est-ce que vous y êtes favorable? On sait que certaines personnes, Valérie Pécresse pour ne pas la nommer, est plutôt favorable à cette expérimentation dans le métro, favorable également à Nice dans des lycées, Nice ou encore Marseille. Vous, à titre personnel, vous y êtes favorable?
Alors, moi, je pense qu'il y a des cas d'usage de la reconnaissance faciale qui n'ont rien à voir. Vous utilisez probablement la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre iPhone. Bon.
Non, mais attendez. L'authentification. David Deba, par exemple, vous pose la question reconnaissance faciale dans les lycées. Vous êtes d'accord ou pas d'accord?
Pour authentifier quelqu'un pour entrer dans un lycée dès lors qu'on ne garde pas pour authentifier quelqu'un dès lors qu'on ne garde, que c'est encadré, la question peut se poser. Est-ce qu'on doit le faire pour des mineurs? Je pense que Il faut qu'il y ait un débat public. Ce que je souhaite, et c'est ce que j'ai dit dernièrement, c'est que d'abord, il faut qu'on ait des expérimentations pour pouvoir avoir des chiffres précis. Aujourd'hui, tout le monde parle sans savoir quels sont le taux d'erreur, quel est le taux de faux positifs, et tout le monde parle en pensant à la Chine. Donc, il faut d'abord qu'on expérimente, qu'on ait un certain nombre de données, et qu'ensuite on puisse avoir un débat public. Est-ce qu'on doit utiliser la reconnaissance faciale pour entrer dans les lycées, c'est-à-dire pour des mineurs? Est-ce qu'on doit utiliser la reconnaissance faciale pour vous authentifier, déverrouiller votre téléphone ou retirer un colis? Ça me semble poser moins de problèmes dès lors que c'est encadré. Est-ce qu'on doit utiliser la reconnaissance faciale
pour
aller chercher des terroristes dans la foule ou aller chercher une personne âgée qui s'est perdue? Le débat se pose. Je n'ai aujourd'hui, à titre personnel, pas d'avis arrêté.
Toute dernière question,
pour avoir
très vite,
le débat,
très
vite.
Est-ce que la reconnaissance faciale va être utilisée massivement pour les Jeux Olympiques qui vont se tenir à Paris en 2024? Et est-ce qu'il faudra une loi?
Alors, de toute façon, il faudra une loi, si on veut le faire. Et là, je pense que, est-ce que ça doit être utilisé massivement? Ça doit faire partie du débat qu'on veut poser sur la table.
Merci beaucoup, Cédrico, d'avoir joué le jeu. Quelques secondes, effectivement, c'est fait. Vous étiez ce matin l'invité du 8h30 France Info, secrétaire d'État au numérique. Merci, Jean-Jérôme Bertolus, invité demain sur France Info. Ce sera à 8h30, Amélie de Montchalin.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis. Un podcast à écouter sur franceinfo.fr. Disponible aussi sur l'application Radio France.